RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
Et ensemble, nous recevons Éric Ciotti. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Alors, vous êtes candidat à l'investiture des Républicains pour l'élection présidentielle. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Alors, Xavier Bertrand a annoncé hier qu'il participerait au congrès qui doit départager les candidats. Alors, sage décision ou mais risqué pour lui ?
Sage décision et décision salutaire pour notre famille politique. Voilà. Et je suis reconnaissant à Xavier Bertrand d'avoir fait ce choix, qui est un choix de responsabilité, courageux pour lui.
Mais parce que risqué, justement ?
Sans doute. Toute élection est risquée. Mais il a dit les choses. Et ce qui est important, c'est que désormais, nous avons la certitude. Personnellement, je n'en ai jamais douté, mais que dès le 4 décembre, nous aurons un candidat qui représentera la droite républicaine derrière lequel tout le monde sera rassemblé. C'est une nouvelle importante, puisque jusqu'à hier soir...
Mais il est un peu piégé quand même, Xavier Bertrand, qui se disait le candidat naturel.
Je ne sais pas, moi je suis candidat moi-même, je ne vais pas faire de commentaires sur la candidature de Xavier Bertrand, qui est un ami... Et comme les autres concurrents, d'ailleurs, parce que...
Vous êtes tous des amis, on le sait bien.
Mais c'est-à-dire, oui. On connaît la formule. C'est pas toujours bon.
Ça peut surprendre.
Un ami qui vous veut du bien, vous connaissez l'expression.
J'ai vécu d'autres périodes de grandes tensions dans notre famille politique, en 2012, voire en 2016. Très sincèrement, entre nous, les choses se passent bien. Et on a la garantie qu'au final... Après une période de débat où chacun va exposer ses propositions, son programme, ses projets. Et il y a des différences. Et je suis peut-être le candidat qui porte le plus de différences par rapport aux autres. Ne serait-ce qu'une, je n'ai pas voté personnellement Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle de 2017. Je suis le seul dans ce cadre.
Il y a quelques jours, Xavier Bertrand donc, disait pas de primaire. Bon, les militants ont dit d'accord, pas de primaire, on va faire un congrès au cours duquel on choisira le candidat. Et puis après, il a dit, ce congrès, finalement, c'est une espèce de primaire qui ne dit pas son nom, j'ai pas non plus envie d'y aller, sauf si c'est pour me désigner candidat. En gros, c'était ce qu'il disait. Et là, il s'est heurté à... la détermination de tous les autres candidats, vous notamment, qui ont dit « pas question, on ne bougera pas, vous n'en avez pas démordu ». Et finalement, ils participent. Donc c'est quand même une forme de capitulation.
Non, il a écouté la voix des militants. Voilà.
Et la voix de ses concurrents aussi. Et on dit non, on ne cède pas.
C'est une réflexion qui a sans personnel, qui a sans doute guidé Xavier Bertrand. Encore une fois, moi, je n'ai pas de commentaire à faire, simplement à me réjouir de sa décision, parce qu'elle est... Elle est collectivement salutaire pour nous. J'imagine les commentaires, s'il avait fait un autre choix hier soir, nous serions aujourd'hui en grande difficulté. Donc voilà, c'est bien qu'on soit rassemblés dans la même procédure, peu importe le chemin qui a été pris pour y arriver. Ouais. Aujourd'hui, le 4 décembre, c'est pas très loin, après un débat qui va attirer l'attention sur des propositions, on aura un candidat unique. Et ce candidat, je le redis, j'ai la conviction, voire la certitude, que c'est le seul qui pourra battre Emmanuel Macron. C'est ça qui fait la différence et qui fait sans doute l'importance de notre candidature unique.
Et d'avoir voulu faire jusqu'au bout quasiment cavalier seul, est-ce que ça l'affaiblit tout de même ? Est-ce que ça détériore son image auprès des militants ?
Je vois bien où vous voulez me pousser, mais je ne ferai pas de commentaires sur le parcours de Xavier Bertrand.
Voilà. Alors, je respecte, allez, on se tient pour dit.
Je respecte sa décision et elle est importante et je le redis, salutaire quelque part pour nous.
On va en venir à vous, mais j'ai juste une toute petite question. Quand on parle avec des membres des Républicains, ils vous répondent, mais de toute façon, ce sera Barnier. Est-ce que l'élection est déjà pliée parce que les combinations, parce qu'on sait bien qu'il peut y avoir des consignes de vote ?
Bien sûr que non, elle n'est pas pliée. Voilà, les militants sont libres.
C'est pas ce qu'on vous dit.
Chacun peut dire ce qu'il souhaite. C'est les militants et eux seuls qui décideront dans les fédérations avec leur sensibilité et leur intelligence.
Alors, vous, vous êtes donc candidat. On ne parle pas encore de vous dans les sondages. Est-ce que vous ne faites pas office de cinquième roue du carrosse ? Et qu'est-ce qui vous différencie de Pécresse, Barnier, Philippe Juvin et Xavier Bertrand.
Le résultat, je pense, démontrera que votre commentaire n'était pas pertinent. Et ça, j'en suis profondément convaincu.
Je l'accepte.
Pour deux raisons, parce que je crois que la ligne que je défends, qui est une ligne à droite, que je revendique, assumée, je suis de droite, je ne m'excuse pas de l'être, je suis dans une opposition sans concession au pouvoir actuel, qui refuse toute forme d'alliance ou de compromission avec le macronisme. Pourquoi ? Non pas par posture, mais parce que je considère que ce quinquennat a fait reculer notre pays, ne lui a pas permis de prendre les bonnes décisions au plan économique, où on est écrasé de dettes, au plan fiscal, où les impôts atteignent des records, au plan des déficits, notamment commerciaux, qui ont vu reculer notre pays, au plan du déficit d'autorité.
Ça, c'est pas ce qui vous différencie de vos autres camarades à droite.
Je fais
vous dites,
constat,
j'assume d'être de droite. Ça veut dire quoi ? Vous êtes un peu du côté de Zemmour ou de Marine Le Pen. En tout cas, vous partagez certaines valeurs.
Parce que si on est à droite, on est du côté de Marine Le Pen.
Non, quand vous dites très, très à droite.
Vous classiez donc le général de Gaulle du côté de Marine Le Pen.
Non.
C'est ridicule, cette classification. Moi, je suis à droite. Je refuse toute forme d'alliance avec ce pouvoir. Et je vous explique pourquoi. Parce que je considère qu'il a abîmé notre pays. Et je porte, par rapport à ce constat d'une forme de déclin, de déclassement, un projet de rupture. C'est ce qui me différencie sans doute de mes amis qui sont aujourd'hui dans la compétition. Rupture, quand je propose le droit du sang par rapport au droit du sol, je suis le seul à le faire. Quand je propose la fin des droits de succession, au plan économique, je suis le seul à le faire. Quand je propose une flat tax sur l'impôt sur le revenu, je suis le seul à 15% pour tout le monde. Je suis le seul à porter ces propositions.
Éric Ciotti, vous n'avez pas dit au fond qui résume en tout cas l'inspiration de votre candidature. C'est une formule que vous employez vous-même, mais là vous ne l'avez pas fait ce soir. Vous dites que vous voulez que la France reste la France.
Absolument.
C'est votre préoccupation. Ça, c'est une préoccupation qu'on peut qualifier d'identitaire.
Oui,
c'est l'identité nationale.
J'assume cette volonté de défendre notre identité. Mon projet, c'est là qui se différencie.
Mais aujourd'hui, pour compléter mon propos, aujourd'hui, qu'est-ce qui menace finalement la France ? Qu'est-ce qui fait que la France pourrait ne plus être la France ?
Ce qui la menace, c'est la montée du communautarisme islamiste. C'est nourri par une immigration de masse depuis des années. C'est le fait que certains veulent nous imposer une forme de guerre de civilisation. Nous sommes depuis 2015 en permanence sous la menace du terrorisme islamiste qui nous a déclaré une guerre, et pas simplement à nous. Donc il y a cette menace. Il y a aussi cette incroyable naïveté qui a conduit à laisser entrer sur notre territoire, de façon légale ou illégale, près de 450 000 étrangers en 2019, essentiellement de culture arabo-musulmane.
Et mais ça, c'est le même discours que Zemmour et Marine Le Pen, Éric Ciotti.
Je ne sais pas, c'est mon discours depuis toujours. Qu'on n'a pas la capacité à assimiler. Et c'est ça qui, aujourd'hui, porte atteinte à notre identité et quelque part la menace, et avec les conséquences aussi en termes d'insécurité qui aujourd'hui apparaissent un peu partout sur nos territoires. Quand des quartiers sont aujourd'hui échappent aux lois de la République, quand pour rentrer dans un quartier il faut franchir un checkpoint tenu par des dealers, là aussi c'est qu'il y a un problème.
Quand vous dites que vous voteriez pour Éric Zemmour en cas de duel avec Emmanuel Macron, ça vous l'avez dit, vous l'assumez.
Je le redis.
Est-ce que vous feriez la même chose si c'était Macron-Marine Le Pen ? Est-ce que vous voteriez pour Marine Le Pen ?
J'ai déjà répondu à cette question.
Jamais, pas chez nous.
Pas chez vous, chez certains de vos confrères, et je le redis, ça a toujours été une ligne.
Pourquoi Zemmour et pas Marine Le Pen ?
D'étanchéité totale avec le Front National, avec le Rassemblement National. Ça a toujours été mon parcours.
Donc c'est une question d'étiquette, c'est pas une question d'idée.
Y compris au plan local, je fais une différence très très importante entre Éric Zemmour et ce qu'incarne, ce que représente Marine Le Pen.
Mais pour quelle raison, sur le fond, au-delà en effet du nom, parce qu'on a du mal à comprendre. La plupart de ceux qui s'intéressent à la vie politique pourraient dire, si on résume les choses très simplement, que Éric Zemmour est à la droite de Marine Le Pen.
Je ne crois pas.
Non, mais enfin, oublions ça. Mais ses propositions sur l'immigration, sur les prénoms, il va beaucoup plus loin que Marine Le Pen à l'égard, par exemple, de la communauté musulmane de France.
Marine Le Pen, elle est issue d'une famille.
Alors c'est ça, c'est l'histoire, la c'est famille, en quelque sorte une espèce de tare héréditaire
Elle est issue d'une famille, compris au plan personnel, qui a toujours combattu la famille à laquelle j'appartiens.
Combattu le gaullisme, combattu le général de Gaulle.
La famille gaulliste, donc c'est une histoire, et on ne peut pas nier l'histoire. Moi, je n'efface pas l'histoire. L'histoire de France, elle doit être connue. Et il y a ces racines, il y a des gens qui entourent Marine Le Pen que pour ma part, je ne côtoierai jamais. Donc il y a cette histoire. Il y a aussi, je l'ai dit, ça m'a valu beaucoup de polémiques, une capacité à gouverner que je ne reconnais pas, que je ne trouve pas. Voilà, donc je fais une différence. Éric Zemmour, je le connais depuis longtemps.
Vous l'appréciez que lui, il aurait la capacité à gouverner s'il était en situation ?
Je ne sais pas.
Mais avant de mettre le bulletin de vote, peut-être faut vous poser la question.
Je ne sais pas. Nous verrons bien. En tout cas, moi, je dresse un constat très sévère du quinquennat Macron. C'est un quinquennat qui accélère le déclin de la France.
Alors,
ce déclin, il avait été engagé sous François Hollande. N'oublions pas qu'Emmanuel Macron était un des principaux ministres de François Hollande. Eh bien, aujourd'hui, il s'accélère ce déclin sur tous les plans. Ouais. Et c'est là où je crains une menace pour notre pays. Donc, à un moment, il faut faire des choix. Mais le choix pour battre Emmanuel Macron, je le redis, ne me laissez pas engager sur des voies qui ne sont pas pertinentes. La seule solution pour battre Emmanuel Macron, c'est le choix d'un candidat de la droite républicaine.
Je crois
que toute autre solution ne fonctionnera pas.
Éric Ciotti, vous avez déclaré que vous souhaitiez reconnaître Jérusalem comme capitale unifiée d'Israël, ce qu'a fait d'ailleurs Donald Trump.
Absolument.
La France y est toujours refusée. C'est pas de nature, on va dire, cette solution que vous proposez à favoriser la paix tout de même.
Bah, je ne crois pas. Regardons l'exemple des États-Unis j'allais dire malheureusement, un poids aujourd'hui dans cette région beaucoup plus important que le nôtre, un poids écrasant dans le monde, ce qu'a fait Donald Trump, au contraire, a ouvert des voies d'ouverture avec les Émirats arabes unis notamment, qui ont reconnu Israël. Biden d'ailleurs, très opposé à Trump, n'a pas remis en cause, si je ne m'abuse, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Donc nous, on peut, à un moment, on n'est pas obligé de
poursuivre. Mais pas de manière unilatérale. De manière unilatérale décider sans en référer à l'Europe, par exemple.
D'autres pays l'ont fait, y compris en Europe, y compris des membres de l'Union européenne. Je pense à la Hongrie, notamment.
Pas une grande démocratie.
Peu importe. Il y a des pays qui l'ont fait. Donc moi, ma position aujourd'hui, c'est de reconnaître Israël, qui est le seul État stable et démocratique de cette région tourmentée du monde. Et je crois qu'il faut choisir nos alliés. Et il faut aussi, dans un monde qui nous menace, savoir sur qui s'appuyer dans cette région. Je crois qu'on peut s'appuyer sur
Israël.
Vous avez
fait votre choix.
Est-ce que ça signifie, Éric Ciotti, que pour vous, les Palestiniens ne sont pas légitimes à revendiquer leur souveraineté sur Jérusalem-Est, qu'ils auraient reconnu par les Nations Unies ?
Je ne crois pas à cette légitimité. Je crois à la possibilité demain d'avoir un État palestinien. Je crois à la solution des deux États, qui est une solution qu'a toujours défendue la France, que d'ailleurs les États-Unis ont également encouragée. Mais voilà, Chateaubriand disait 17 fois on a voulu détruire Jérusalem, elle a toujours survécu de ces attaques. Bon, Jérusalem n'a jamais été...
Jérusalem-Est est aujourd'hui reconnue comme palestinienne par les Nations Unies.
Jamais été la capitale d'un quelconque État qui aurait des racines palestiniennes.
Ouais. Peut-être un mot. Tout le monde est allé voir Nicolas Sarkozy en tant que, un peu la statue du commandeur. Et vous, que vous a-t-il répondu lorsque vous lui avez dit que vous étiez candidat ? Et est-ce qu'il vous soutient ?
D'abord, je trahirai pas les conversations que j'ai fréquemment avec Nicolas Sarkozy. Je le vois aller tous les mois ou tous les deux mois depuis qu'il a quitté la présidence de la République. J'ai un immense respect pour le président Sarkozy. Il a été un grand président de la République dans une période extraordinairement difficile. Il n'a pas pu malheureusement conduire sa grande politique de réforme de notre pays. Mais voilà, ni il m'a... qu'il soutiendra personne dans cette encouragement ni découragement au contraire.
Un petit mot, on va en revenir à votre programme, et d'ailleurs c'est d'actualité puisqu'on parle beaucoup du nucléaire ces derniers temps. Le président de la République en a parlé aujourd'hui dans le cadre du plan d'investissement France 2030. Vous voulez construire 6 nouveaux EPR en France, ces super réacteurs de nouvelle génération. Actuellement, il n'y en a qu'un en France, c'est celui de Flamanville, dont la construction a été lancée en 2017. 14 ans plus tard, il ne fonctionne toujours pas. Le coût estimé à l'origine était 3 milliards 300 millions d'euros. On est aujourd'hui à peu près 11 milliards et ça va sans doute dépasser. Quand vous voyez ces données, vous pensez qu'il est bien prudent de s'engager dans la construction de 6 EPR ?
S'il y a ces retards, c'est sans doute aussi parce qu'on a fragilisé notre filière nucléaire. La France avait une avance mondiale dans le domaine du nucléaire. Elle avait des champions. Les réformes qui ont été faites,
c'est pas
notamment
on a fermé Fessenheim que ça a ralenti Flamanville.
Sur la fin du monopole, ont fragilisé notre filière nucléaire. Areva, démantelée, tout ça n'a pas été extraordinairement performant. Bon, le PR aujourd'hui va fonctionner, je l'espère l'année prochaine, c'est ce qui est annoncé. C'est une technologie extrêmement puissante, importante. C'est pas parce qu'il y a eu des difficultés pour le premier EPR français qu'on ne doit pas poursuivre, au contraire. D'ailleurs, la proposition
c'est peut-être un peu aventureux.
La proposition que je formule, c'est celle d'EDF, c'est celle des spécialistes qui considèrent aujourd'hui légitimement que si la France est un des pays d'Europe qui a l'empreinte carbone la plus faible, c'est parce que nous avons cette indépendance énergétique électrique voulue par le général de Gaulle grâce au nucléaire et grâce à l'hydroélectricité. Donc il faut poursuivre dans cette voie. Autrement, c'est une politique de gribouille parce que on nous dit vouloir défendre la planète et pour défendre la planète, on réouvre des centrales au charbon. C'est ça la politique des écologistes. C'est complètement délirant. L'empreinte carbone en Allemagne, elle est quasiment 10 fois supérieure à celle de la France. Donc, si on aime si on veut véritablement défendre la planète, si on veut produire une énergie propre, il faut plus d'électricité demain. Si on veut supprimer les énergies fossiles, il faut plus d'électricité. Comment on produit cette électricité ? Aujourd'hui, l'éolien ne pourvoira pas ça. Le photovoltaïque non plus. Donc, il y a l'hydroélectricité.
Si on veut respecter le timing, il faut qu'on arrête maintenant. C'est terminé. Merci, Eric Ciotti.
Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Et merci à Charlotte Urien-Tomaca et à Camille Néron pour avoir préparé cette émission. Et bien sûr, à toute l'équipe technique. À très vite. Merci.
RFI Challenge APAFRI.